Bonjour, soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans une heure d'errance en terre folk, rock, etc. En 1999, le magazine Rolling Stone décernait au groupe américain Luna le titre de meilleur groupe de rock inconnu du monde ou, dans le texte, « The best band you've never heard of ». Luna, groupe américain né sur les cendres d'une autre formation, pas plus connue, pas moins déméritante, à savoir Galaxy 500, est emmené par le chanteur et guitariste Dean Wareham. Du Velvet Underground, Luna n'aura eu de cesse, de 1991 à 2004, d'explorer la veine mélancolique et attendrie et de Television, la matière vibrante comme en apesanteur. Il n'est pas de coïncidence, en l'occurrence. Sur les disques de Luna furent invités Sterling Morrison, des premiers, et Tom Verlaine, du second. New York pulse dans les veines de Luna et c'est à la lumière éternelle, infatigable, inendormie de Big Apple que son astre puise sa luminescence. Mais les contours de Luna épousent les courbes d'autres influences. Nombreuses sont les routes empruntées par ce groupe curieux. Toujours, Luna se prêta au jeu des reprises. Après une douzaine d'années d'inactivité, quand pointe l'automne de l'année 2017, quand Luna décide de se montrer à nouveau, c'est avec un disque uniquement constitué de reprises. On y puise des chansons de Mercury Rêve, de The Velvet Underground, Fleetwood Mac, David Bowie, The Cure, Bob Dylan.
Most of the time, I'm clear focused all around. Most of the time, I can keep both feet on the ground. I can follow the path, I can read the sign, I can stay right with it. When the road unwinds, I can handle whatever I stumble upon. I don't even notice that she's gone. Most of the time, most of the time, my head is on straight. Most of the time, I'm strong enough not to hate. I don't build up illusion till it makes me sick. I'm not afraid of confusion, no matter how thick. I can smile in the face of mankind. Don't even remember what her lips felt like on mine. Most of the time, most of the time, she ain't even in my mind. I wouldn't know her if I saw her. She's that far behind. Most of the time, I can't even be sure if she was ever with me, if I was ever with her. Most of the time, I'm halfway content. Most of the time, I know exactly where it went. I don't cheat on myself, and I don't run and hide. Hide from the feelings that are buried inside. I don't compromise, and I don't pretend, and I don't even care if I see her again. Most of the time.
A Sentimental Education est le nom de l'album du grand retour de Luna après plus de 10 ans de silence. Comme on entrebâille une porte, on entre sur la pointe des pieds, comme on fait un geste esquissé de la main, la formation revient en douceur et en discrétion en choisissant d'emprunter les chansons de leurs respectés pères. Ici, c'était leur version offerte du Most of the Time de Bob Dylan. Originellement, cette chanson figure sur le disque Oh Mercy que Dylan fait paraître en 1989. Tout au long des années 80, les disques de Dylan ont cessé d'être des événements. Ils sont accueillis dans une relative indifférence ou, dans le meilleur des cas, dans un respect teinté d'ennui. Dylan a, semble-t-il, alors déjà donné le meilleur en faisant opérer à la planète rock, dans les années 60, plusieurs révolutions. Mais ce disque, Oh Mercy, est une merveille. Comme put l'écrire très justement Mischa Assayas, à l'occasion de ce disque de la Renaissance, Dylan choisit un dépouillement zen et presque new age pour poser une voix étonnamment fragile et chuchotante sur des titres intenses. Dans leur série que Télérama publiait, à l'occasion de l'exposition Dylan is Dylan, à la Cité de la Musique en 2012, il y avait cet article extraordinaire signé Pascal Boisise, Anatomie d'une voix, dans lequel étaient décrites en quelques albums jalons les métamorphoses vocales du chanteur. Il y a parmi ces albums marquants Oh Mercy, bien sûr. Revenons aux propos de Pascal Boisise. Essoufflée, épuisée, la voix, en cette année 1989, après tant d'échecs, s'est réfugiée derrière la tête. Elle ne sort plus que par à-coups, ne sort plus que comme on respire à travers un masque à oxygène, régulièrement, difficilement, douloureusement. Sur Oh Mercy, album de la rédemption, Dylan chante à l'économie, convalescent. La voix délivre des morceaux d'information, des phrases courtes, le minimum. Juste pour dire, presque, que l'on est encore en vie. La plupart du temps, elle ne chante que pour elle-même. Elle chante toute seule, comme on parle tout seul. C'est une voix qui est passée, en se blessant, de l'autre côté du miroir. Une voix qui s'est séparée. Elle a débranché le téléphone du monde. Elle lui demande vaguement, sans attendre de réponse, « What was it you wanted ?» Elle a oublié. Ici, Dylan chante, magnifiquement, comme s'il avait oublié.
What was it you wanted? Tell me again so I know. What's happening in there? What's going on in your show? What was it you wanted? Could you say it again? I'll be back in a minute. You can get it together by then. What was it you wanted? You can tell me I'm back. We can start it all over. Get it back on the track.
You got my attention. Now go ahead and speak. What was it you wanted when you were kissing my teeth? Was there somebody looking when you give me that kiss? Someone there in the shadows, someone that I might have missed. Is it something you needed? Something I don't understand. What was it you wanted? Do I have it here in my head? Whatever you wanted slipped out of my mind. Would you remind me again if you'd be so kind? Has the record been breaking? Did the needle just skip? Is there somebody waiting? Was there a slip of the lip? What was it you wanted? I ain't keeping score. Are you the same person that was here before? Is it something important? Maybe not. What was it you wanted? Tell me again, I forgot.
Le printemps arrivé, je me suis installé à la Nouvelle-Orléans dans une grande maison confortable près de Obudon Park. Belles pièces, meublées simplement, chacune avec sa penderie. On aurait pu trouver mieux. Vraiment parfait. Un endroit où travailler dans la lenteur. On m'attendait au studio, mais je ne voulais rien précipiter. Il faudrait tôt ou tard s'y mettre, mais un autre jour s'y prêterait aussi bien. J'avais apporté beaucoup de chansons, j'étais sûr qu'elles tiendraient leurs promesses. Je suis parti me promener à la nuit tombante. L'air était noir et enivrant. Au carrefour, un chat immense et décharné était tapis sur une corniche. Je me suis approché, me suis figé, il n'a pas bougé. J'ai regretté de ne pas avoir un pichet de lait. J'avais les yeux et les oreilles ouverts, la conscience en éveil. La première chose qu'on remarque à la Nouvelle-Orléans, et parmi les plus belles, ce sont les cimetières. En passant à côté, on essaye d'être aussi silencieux que possible. Mieux vaut laisser dormir les occupants. Le passé ne disparaît pas si vite, ici. On peut être défunt depuis longtemps. Les fantômes courent vers la lumière, on les entendrait presque haleter. Les esprits sont décidés à arriver quelque part. Contrairement à bien des lieux où l'on retourne sans en retrouver la magie, la Nouvelle-Orléans conserve la sienne. La nuit vous y engloutit, mais rien ne vous touche. Une promesse audacieuse ouvre ses bras à tous les coins de rue, l'idéal et la vie ne s'éteignent pas. Il y a comme une joie obscène cachée derrière chaque porte, ou alors c'est quelqu'un qui pleure, la tête dans ses mains. Un rythme paresseux s'élève dans l'air rêveur, l'atmosphère vibre encore, des duels et des idylles, j'aime ce caractère-là. Bob Dylan, dans ses Chroniques, volume 1, ainsi s'exprime au sujet de la Nouvelle-Orléans où il enregistra à la fin des années 80 son album « Oh Mercy ». Le disque tout entier semble baigné de la moiteur du lieu, ses échos, sa faune vibrante, sa flore caressante. Le magicien qui sut capter cette vie-là et la mêler aux chansons rêches de Dylan a pour nom Daniel Lanois. Dans ses mêmes chroniques, au sujet du producteur qui mit en son « Oh Mercy », Dylan écrit ces lignes. Lanois m'avait plu. Il n'avait pas un ego démesuré, il paraissait maître de lui, rien d'un brasseur d'affaires, et il avait une passion extraordinaire pour la musique. Si quelqu'un possédait la lumière, ça pouvait être ce gars-là, et je me suis dit qu'il saurait peut-être la faire jaillir. Il avait l'air du gars qui, lorsqu'il travaille sur quelque chose, s'engage à fond, comme si le sort de l'humanité dépendait du résultat.
I sing about love and war. I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war. Seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord. And mostly they pray about love and war. Try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again. I can't take back, but I don't really know if I wanna. In songs about love, I sang songs about war since the back streets of Toronto. I sang for justice and I hit a bad chord, but I still try to sing about love and war. Thank you. the whole wide world is to break the heart of your lover. I made a mistake and I did it again. Then we struggled to recover. I sang in anger, hit another bad chord, but I still try to sing about love and war. About love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war. Pray about love and war. Pray about love and war, love and war.
Neil Young est seul, aux guitares électriques ou acoustiques, comme ici sur ce Love and War, première accalmie d'un album orageux. Neil Young est seul, mais entouré d'une foule de micros placés avec science par le sorcier du son Daniel Lanois. Le producteur offre aux chansons du Loner des effets d'écho et de réverbération, comme si la voix et la guitare de Young entraient en résonance avec tout un monde caché qui, ainsi convoqué, s'éveillerait doucement pour continuer le chant de Young. Tout vibre, tout frémit, tout renaît. Cet album, Neil choisit de l'intituler « Le Noise », alliage d'un article français et d'un substantif anglais, mais aussi hommage appuyé au travail de son compatriote Lanois, qui en anglais se prononce « le noise ». Hugo Cassavetti, dans le magazine Télérama, quand paraît l'album en 2010, écrit ceci. Tantôt électrique, tantôt acoustique, les chansons semblent provenir d'un état de transe durant laquelle Young improvise des croisements de récits autobiographiques en forme de parcours initiatique avec ses indignations sur l'état de la planète. La collaboration avec Lanois est d'autant plus remarquable que Neil Young a tout au long de sa carrière été fidèle à un même producteur, David Briggs. En 1968, la première réalisation de Briggs est le premier album solo de Young, et alors leur destin sera scellé. Neil Young fera toujours appel à Briggs pour la production de ses disques, et Briggs ne réalisera que peu de disques signés par d'autres artistes que le Canadien. Jusqu'en 1995, date de la mort de Briggs. Alors, Young supervisera lui-même la réalisation artistique de ses albums jusqu'en 2010 et l'album Le Noise, confié à Daniel Lanois. Pour ce disque, Young exhume une de ses anciennes compositions, Hitchhiker, jamais parue. Originellement enregistrée en 1976 et mise de côté, Neil estimant que son interprétation était trop altérée par les drogues, il se résout finalement à sortir l'original plus de 40 ans plus tard, en 2017.
Too. But did you just
just drive on through. You didn't see me in Toronto when I first tried out some hat. I smoke through a pen and I'd do it again if I only had some cash. If I only had some cash. Then I tried amphetamine. Head was in a glass, taped underneath the speedometer wires of my 48 Buick stash. But I knew that wouldn't last. Then came California, where I first saw open water. Land of opportunity, I knew I was getting hotter. I knew I was getting hotter. But the neon light and the endless night, they took me by surprise. Doctor gave me Valium, but I still couldn't close my eyes. I still couldn't close my eyes. Then came paranoia, and it ran away with me. I couldn't sign my autograph or appear on TV. Or see or be seen. Living in the country sounded good to me. Smoking grass with my Chicago lights in the real organic scene, where everything was green. A kid and we split apart. Now I'm living on the road, and a little cocaine goes a long, long way to ease that different load. But that ain't all that I know. I wish I was an Aztec or a runner in Peru. I would build such beautiful buildings to house a chosen few, like an Inca from Peru.
Mon idée, à l'époque, était de présenter ces nouvelles chansons sous leur forme la plus pure et la plus simple. J'aime ces vieux albums de Bob Dylan, Woody Guthrie, Robert Johnson, Led Belly et d'autres artistes folk. J'avais une profonde connexion avec ce mouvement. Ces influences restent ancrées en moi aujourd'hui. J'étais excité à l'idée d'enregistrer ces titres, je me sentais vraiment bien lors de cette session. J'ai fumé un peu d'herbe avec Dean, et nous nous sommes installés dans la petite pièce où j'allais jouer et chanter. J'ai accroché le capot d'astre à ma guitare. « Tu es prêt, Briggs ?» ai-je demandé à David. Installé à la console de mixage, il a hoché la tête derrière la vitre en guise de oui. Il était 2h du matin quand on a fini la session. On l'a fêté, on savait qu'on venait de faire un sacré truc. Après, nous sommes partis tous les trois au bord du Pacifique voir la pleine lune s'y refléter. C'était magnifique. Les vibrations étaient très fortes, je les ressens encore aujourd'hui. Quand l'album Hitchhiker paraît, Neil Young a 71 ans. Au micro de la radio publique du Colorado, Coteau, il se souvient de cette nuit du 11 août 1976, lors de laquelle, à l'Indigo Ranch Studio, sur les hauteurs de Malibu, il enregistra en une session cet album. Seul, avec une guitare, un harmonica et un piano, avec pour seul témoin l'acteur Dean Stockwell et le producteur David Briggs. Demeurons auprès de ce dernier, Briggs. Avançons de 15 ans dans le temps, nous sommes en 1991. Toujours dans les parages de Los Angeles, mais non plus dans les montagnes, puis sur la plage de Malibu, mais à présent dans la vallée de San Fernando, à Van Nuys, derrière la console des Sound City Studios. Briggs enregistre le prochain disque de Nick Cave et de ses Bad Seeds, Henry's Dream.
Christina the Astonishing lived a long, long time ago. She was stricken with a seizure at the age of 22. They took her body in a coffin to a tiny church in Lynn, where she sprang up from the coffin just after the Agnes Day. She soared up to the rafters, perched on a beam of air. The stink of human sin, the stink of human sin, the stink is more than I can bear. And I said, died at the age of 74.
in the convent of St. Anna.
Pour l'enregistrement de Henry's Dream, David Briggs applique les mêmes recettes qu'il utilise avec Neil Young et le Crazy Horse, à savoir une prise de son quasi live du groupe en train de jouer. Cette nouvelle approche tranche radicalement avec celle des albums berlinois des Bad Seeds au cours des années 80, fruit de longues séances semi-improvisées et d'un assemblage moitié hasardeux, moitié drogué, mais ô combien magique, de bouts d'enregistrement. La méthode de Briggs déçoit Cave, qui lui reproche d'avoir ôté à ses chansons leur versant maladif, leur tension. Henry's Dream, jugé trop lisse, sera renié par le chanteur. Pourtant, cela demeure un des albums favoris de ses fans et objectivement un très bon disque de Nick Cave. On y retrouve sa vision puritaine du monde et son ressort éternel en trois temps, péché, remords et rédemption. S'y percute à nouveau folklore américain, gospel, blues, hillbilly et électrochoc punk, sauvagerie et tendresse, acmé et épuisement. Les chansons y sont magnifiques et servies par une formation exceptionnelle des Bad Seeds. Autour de Nick Cave, on retrouve Mick Harvey et Blixa Bargeld aux guitares, Conway Savage au clavier, Martin P. Casey à la basse et Thomas Wilder aux percussions. Deux ans plus tard, Harvey et Casey retrouvent dans un studio de Melbourne un homme proche de Nick Cave qui rejoindra bientôt les Bad Seeds, Warren Ellis. Tous trois accompagnent le fondateur des Go-Be Twins, Robert Forster, qui entame l'enregistrement de son troisième album solo. C'est un album que Forster désire uniquement constituer de reprises. Voici celle du Echo Beach de l'obscur groupe New Wave canadien Martha on the Muffins.
Far away in time, Echo Beach, far away in time.
Une pop intemporelle, soigneusement ouvragée, au charme romantique et à la subtilité décontractée. C'est ainsi que dans un article signé pour le journal Libération en 1996, Lydie Barbarian choisit de caractériser la musique de l'Australien ex-Go-Betweens Robert Forster. Dans ce même papier, la critique évoque l'enregistrement de son album « I Had a New York Girlfriend », citant au passage les propos mêmes de Forster. En 1994, dans « I Had a New York Girlfriend », troisième album solo, il avait pourtant laissé de côté l'écriture pour se pencher sur celle d'autres auteurs. Avec cet album de reprise, enregistré, car il avait trop envie d'aller en studio sans pour autant avoir pondu suffisamment de chansons, Robert Forster en a bavé. Habituellement, quand il s'agit de mes créations, tout coule de source, elles ont déjà été interprétées en tournée, je les connais et les comprends parfaitement. Avec des reprises, ça a été une autre histoire. Rassurons Robert Forster, avec ce disque-là, comme avec ceux qui le précèdent et ceux qui le suivront, on retrouve le même plaisir à apprivoiser des mélodies que le musicien semble dessiner comme sans y faire réellement attention, comme on croque une silhouette en quelques coups de crayon, mais des traits décisifs, essentiels. Christian Larède, dans Les Inrocks, 20 années après Lydie Barbarian dans Libé, tente lui aussi d'attraper dans ses filets la musique mystère de Forster, et tente avec justesse. Un sens de la musique crépusculaire, des refrains flottants qui ne se découvrent qu'au fil des écoutes, une fausse indolence et une vraie mélancolie futée. Dans ses filets à lui, à l'occasion de ce si beau disque paru en 94, Forster a attrapé de belles chansons signées Bob Dylan, Keith Richards, Ricky Nelson, Neil Diamond, Grant Hart.
To know that you're okay, but I don't want you to go on.
Yusker Du est fondée dans le Minnesota à Saint Paul par trois amis à la fin des années 70. Leur punk hardcore, au début abrasif et sans concession, ouvrira lentement une brèche dans laquelle s'infiltreront des textes sensibles et des mélodies ciselées. Si Yusker Du ne rencontra jamais le succès public, ils permirent aux Pixies et à Nirvana, en appliquant cette recette d'un rock à la fois tonitruant et mélodique, de percer. Cette chanson, « Don't Want to Know If You Are Lonely », en est un bel exemple. La chanson est signée et interprétée par le batteur du groupe, le déchirant Grant Hart. Quand la chanson paraît en 45 tours, il y a en face B une reprise des Beatles, « Helter Skelter ». C'est dans les années 60, au-delà de la révolution punk et de ses tables rases, qu'il faut aller remonter les sources de l'inspiration de Yusker Du. Et si leur musique tellurique était un autre psychédélisme? N'avait-il pas repris deux années auparavant, en 1984, le fameux « 8 Miles High » des Byrds? Au cours de la tournée, les Byrds ne voyagent pas dans le bus collectif. Ils préfèrent louer un camping-car Winnebago, conduit une bonne partie du chemin par David Crosby. Il a emmené avec lui une cassette que Jim McGinn passe en boucle à l'arrière du véhicule grâce à un branchement du lecteur sur ampli Fender. Tiré des albums Africa Brass et Impressions, le free jazz de John Coltrane, occupant la première face, côtoie le raga indien de Ravi Shankar auquel est réservée la seconde. Au goût de Crosby, cette association musicale bouleverse la conception musicale du groupe, alimente leurs réflexions et influence leur travail de composition. Le pont entre les styles s'opère via India, morceau de 14 minutes ouvrant Impressions. Par son nom et ses inspirations, le titre souffle aux Byrds l'idée de fondre leur folk rock dans une improbable union électrifiée du free jazz et du raga. La confrontation de ces mondes se fait avec la composition 8 Miles High. Stephen Jezo Vanier, dans son ouvrage consacré aux Byrds, intitulé tout sobrement The Byrds, paru aux éditions du Mot et du Reste, narre ainsi la genèse de la chanson 8 Miles High. Quand paraît cette chanson des Byrds, en décembre 1965, c'est une nouvelle esthétique qui se crée. Il appelle un genre bientôt intitulé raga rock. Mais vite, on parlera de rock psychédélique, quand s'avérera le lien entre musique pop et prise de LSD. La contre-culture quitte le strict underground, les Byrds aux États-Unis et les Beatles en Angleterre initient le mouvement. Au printemps 66, un reporter du Austin American Statesman assiste à un concert pop et emploie pour la toute première fois les mots « psychedelic rock », »,« rock psychédélique ». Ce concert, c'est celui d'un tout nouveau groupe de San Francisco, The 13th Floor, Elevators. Quand leur album paraît quelques mois plus tard, ils choisissent de lui donner ce titre « The Psychedelic Sounds of the 13th Floor, Elevators ». Avec la chanson Roller Coaster, cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. En plein trip d'acide se dénouera cet épisode d'Eldorado. Merci beaucoup de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Souvenez-vous de cette adresse, vous y trouverez émissions et playlists. www.radio-eldorado.fr. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao. Thank you.
life won't burn you up. You start doing what you want to do.